Le désencombrement de la personne polyhandicapée, article d'Alain Jouve et Guillaume Riffard. Le premier kinésithérapeute à l'Institut Motricité Cérébrale Paris, le second kinésithérapeute au CHU de Saint-Étienne. Dans le kiné actu du jeudi 22 mars 2012. Nombre de kinésithérapeutes intervenant en cabinet, à domicile ou en établissement spécialisé sont confrontés à la prise en charge de l'encombrement d'enfants ou d'adultes polyhandicapés. Les divers troubles constituant le polyhandicap rendent difficile la mise en œuvre des techniques de désencombrement classiques. Nous nous proposons d'approcher les troubles susceptibles de conduire à un encombrement des voies aériennes et les traitements à proposer. La prévalence du polyhandicap est stable depuis de nombreuses années, de l'ordre de 1,3 pour 1000 naissances. Le polyhandicap se définit comme un handicap grave à expression multiple, chez lesquels la déficience mentale sévère et la déficience motrice sont associées à la même cause, entraînant une restriction sévère de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de communication. La problématique respiratoire est un élément d'altération de la qualité de vie de ces sujets difficiles à évaluer. Elle reste cependant la première cause de mortalité. Le contexte ventilatoire du sujet polyhandicapé. L'atteinte cérébromotrice entraîne des dérégulations posturales, des excès et des déficits de contraction. Il s'ensuit des troubles orthopédiques, attitudes vicieuses, limitations de mobilité, déformations. En cas de scoliose, la cinétique ventilatoire est perturbée, restriction, atélectasie. L'activité buccofaciale peut être dégradée, le réflexe de toux amoindri, voire aboli. Les risques de fausse route sont donc accrus, favorisés par d'autres éléments dysphasiques, reflux gastro-œsophagien, dilatation aérienne gastrique, constipation. Il en résulte des encombrements répétés avec détérioration du système mucociliaire. Les troubles de l'alimentation qui en résultent doivent donc être traités en priorité, positionnement, texture aménagée, voire gastrostomie. Les troubles trophiques produisent des laryngomalacies, trachéobronchomalacies, responsables de gènes ventilatoires avec production d'un bruit à l'expiration ou à l'inspiration stridore, selon que la zone lésée est intra- ou extra-thoracique. Ces signes apparaissent ou se majorent lors d'infections respiratoires du fait de l'effort ventilatoire accru. La douleur, les différentes atteintes organiques génèrent des douleurs qui majorent les contractions pathologiques et aggravent les défauts d'alignement des segments corporels. L'épilepsie, les crises commissiales peuvent être responsables d'obstruction des voies aériennes, entraînant parfois de réels épisodes d'apnée. Les régurgitations possibles constituent un risque d'inhalation. L'ensemble de ces troubles et les facteurs qui les composent concourent à mettre en place chez la personne IMC ou polyhandicapée un syndrome respiratoire mixte dont la gravité est conditionnée par le degré d'atteinte cérébromotrice. À noter, certaines réponses thérapeutiques peuvent avoir un effet délétère sur le plan ventilatoire. Appareillage strict avec sangle thoracique, médicaments antiépileptiques avec effet dépresseur centraux. Ces effets secondaires doivent être recherchés et combattus. Repérer et évaluer l'encombrement du sujet polyhandicapé. L'évaluation doit faire la part entre l'encombrement des voies aériennes supérieures et des voies infraglottiques. Les signes cliniques. L'encombrement des voies aériennes supérieures peut gêner l'alimentation, provoquer des bruits ventilatoires et la toux. La disponibilité de la ventilation nasale est à vérifier. La nature des sécrétions évacuées, épaisseur, couleur, quantité, orientera le traitement médicamenteux associé aux techniques de désencombrement. La stéthoacoustique. Une fois les voies aériennes supérieures dégagées, l'examen au stéthoscope permet de repérer les zones intra-thoraciques concernées par un encombrement éventuel et son degré de proximité. À noter, une ventilation à faible volume et faible débit ne peut ne pas mobiliser des sécrétions épaisses et collantes et constituer un piège à l'examen stéthoacoustique. Les réponses thérapeutiques, décontraction, installation et position facilitatrice de la ventilation. Le préalable à toute action sur la fonction ventilatoire sera de réduire au maximum l'état de contraction dans lequel se trouve le sujet cérébro-lésé. Les tensions musculaires excessives constituent en effet une véritable limitation de la capacité respiratoire, les manœuvres de contraction automatique et les postures facilitatrices de la détente doivent ainsi précéder toute technique de désencombrement. Désencombrement des voies aériennes supérieures. L'encombrement des voies aériennes supérieures de la personne polyhandicapée est fréquente. Une attention particulière sera portée à la désobstruction de cette région. Parmi les techniques de désencombrement des voies aériennes supérieures, nous avons retenu celles qui nous paraissent adaptables aux personnes polyhandicapées. La douche nasale, c'est une pratique qui consiste à amener un flux d'eau dans une narine sans utilisation de pression importante en assurant l'étanchéité entre le dispositif et la narine, à la différence des pipettes de sérum physiologique. Il existe des systèmes permettant cette douche par utilisation de la pression constituée par une colonne d'eau. Les poires auriculaires recoupées proposées par l'espargot permettent également ce rinçage doux. Le désencombrement rhinopharyngé rétrograde. L'opérateur accompagne manuellement l'expiration du sujet, puis oriente le flux inspiratoire par le nez en empêchant le passage par la bouche par pression sous la base de langue, repoussant celle-ci contre le voile du palais. Les sécrétions nasales sont reniflées et acheminées sur la langue, puis jusqu'aux lèvres par le souffle expiratoire. L'apport du sérum physiologique ou d'eau lors de ces manœuvres permet de fluidifier les sécrétions et stases rhinopharyngées. La toilette rhinopharyngée, décrite par l'espargot, cette technique propose de combiner l'hydratation nasale au moyen d'une poire effilée ORL, la mobilisation douce en amplitude maximale de circumduction de la colonne cervicale et la vibration manuelle de l'os hyoïde. Le pompage valéculaire, décrit par Postio dans sa pratique auprès de nourrissons, cette technique consiste en pression manuelle glissée le long de la face latérale de la trachée, de la fourchette sternale à la région sous-maxillaire. Ces pressions lentes et progressives sont bien tolérées des patients aux possibilités de communication réduites. Elles mobilisent directement les structures laryngo-trachéales et déclenchent des déglutitions. Désencombrement des voies aériennes infraglottiques. Le désencombrement manuel comprend un temps de drainage et un temps d'évacuation des sécrétions. Les techniques classiquement décrites, augmentation du flux expiratoire, lente prolongée, drainage autogène, expiration lente totale, glotte ouverte en latérocubitus, seront utilisées avec la nécessité de les adapter en fonction des schémas moteurs pathologiques, de la compliance thoracique et de la participation du sujet. Les techniques actives inspiratoires sont difficiles à mettre en œuvre chez cette population de patients. En présence de trachéo ou de bronchomalacie, un collapsus peut survenir lors des manœuvres expiratoires. Celui-ci peut être diminué par l'emploi d'un frein expiratoire en bouche ou en masque naso-buccal qui crée pression expiratoire positive, PEP. Les postures. Les changements de position permettent de drainer les différents territoires pulmonaires. Les postures en décubitus ventral sont parfois difficiles à réaliser chez les patients polyhandicapés, mais leur efficacité mérite de consacrer du temps pour trouver des adaptations techniques permettant de les réaliser. La toux provoquée. Nous limitons au maximum le recours à cette technique trop souvent pratiquée de façon inutilement agressive. La bonne conduite du désencombrement amène la plupart des sujets à tousser d'eux-mêmes au moment où cela s'avère nécessaire. Il nous arrive parfois de devancer ce moment et de provoquer la toux lorsque la prolongation de la séance nous paraît constituer un surcroît de fatigue inopportun pour un sujet épuisé. Rappelons que la provocation de la toux se fait par une pression douce sur la face antérieure de la trachée, juste au-dessus de la fourchette sternale. L'efficacité sera davantage obtenue par un glissement doux et prolongé transversal à la recherche de la zone la plus réflexogène, plutôt que par une accentuation désagréable de la pression exercée. Les aides instrumentales à l'exploration. Le relaxateur de pression. L'utilisation d'un générateur de débit à réglage de pression permet l'insufflation via une interface buccale ou naso-buccale. d'un volume gazeux dans les poumons du patient qui favorise l'expansion thoraco-pulmonaire. Le recrutement des zones pulmonaires mal ventilées lors de la ventilation spontanée du sujet polyhandicapé et l'augmentation du volume inspiratoire pré-tussif permet d'améliorer le désencombrement bronchique. Le principal risque est d'insuffler une partie de l'air dans l'estomac, notamment en présence d'une insuffisance des sphincters œsophagiens. Lors de l'emploi de cette thérapeutique, il conviendra donc d'être très vigilant en cas de plainte ou de manifestation peu compréhensible du sujet peu communicant et de rechercher par la palpation et la percussion en regard de la zone gastrique un bruit tympanique. Pour un sujet sensible à ce type de trouble, l'utilisation de sangles abdominales pourra aider à contenir la dilatation gastrique. L'insufflation-exsufflation mécanique. Cette technique est une assistante mécanique à la toux. Elle consiste en une aide à l'inspiration en pression positive, hyperinsufflation, immédiatement suivie d'une brusque aspiration en pression négative, hyperexsufflation. Le manque de coopération du patient polyhandicapé limite souvent l'efficacité de cette technique, notamment par une fermeture glottique lors de l'expiration. Les aspirations nasopharyngées devraient être limitées aux situations où toute autre technique manuelle et instrumentale s'avère insuffisante. Pratiquées de façon itérative, les aspirations risquent d'irriter et de favoriser inflammation et production de sécrétions. Lors d'altérations majeures de la déglutition, l'aspiration strictement buccale permet d'évacuer les sécrétions remontées en bouche. La ventilation à percussion intrapulmonaire, elle consiste à administrer à haute fréquence des petits volumes courants dans les voies aériennes. Le percussionnaire favorise la mobilisation des sécrétions bronchiques avec le grand avantage de ne pas nécessiter la participation du patient. Cette technique est donc particulièrement adaptée aux personnes polyhandicapées. La prise en charge financière de ce matériel est actuellement compliquée. Le désencombrement en situation d'insuffisance respiratoire aiguë. La survenue d'un épisode infectieux pourra rapidement placer le sujet polyhandicapé en détresse respiratoire. Les techniques précédemment abordées seront utilisées mais s'avéreront en elles-mêmes insuffisantes. D'autres moyens seront mis en œuvre. La ventilation non-invasive, VNI, permet d'assurer un support ventilatoire qui limite les efforts ventilatoires et permet d'assurer l'hématose. Différents types d'interfaces seront utilisables. Narinaire, nasal, nasobuccal, buccal, facial. À la répétition de ce type d'épisode, des familles sollicitent la mise en place de ce traitement à domicile, induisant des situations nouvelles, techniques et éthiques pour les équipes médicales, mais également dans la pratique des kinésithérapeutes à domicile. Les aspirations infraglottiques restent pratiquées couramment dans des situations aiguës. Elles posent les mêmes complications d'irritation qu'en supraglottique, auxquelles s'ajoutent les risques septiques et traumatiques. Granulome sur la carène par butée de la sonde. Là encore, les techniques manuelles et instrumentales doivent relayer le plus rapidement possible ces aspirations. L'oxygénothérapie utilisée en situation aiguë doit également ne pas être prolongée sans contrôle de la capnie. La facilité d'accès à des mesures de saturation en oxygène amène trop couramment à la mise en place en milieu peu médicalisé de complémentation en oxygène qui peut se révéler tout à fait dangereuse pour le sujet, acidose respiratoire. Conclusion. L'encombrement du sujet polyhandicapé résulte le plus souvent d'un ensemble de causes. Il convient de les traiter toutes pour être efficace en termes d'engagement, de pronostic vital, mais également de qualité de vie. La détente préalable du sujet est indispensable à l'application de nos gestes de drainage manuel ou instrumental. Le désencombrement des voies aériennes supérieures mérite une attention particulière. Dans quelle mesure la kinésithérapie à visée de recrutement ventilatoire, avec les moyens manuels et instrumentaux évoqués ici, a-t-elle un effet préventif de désencombrement ? En tout état de cause, elle place sujet et thérapeute dans de meilleures prédispositions pour faire face à d'éventuels épisodes d'encombrement.